When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue dans On the Verge et ce nouvel épisode avec Sylvain, 50 ans. Sylvain est homosexuel, Sylvain est surdoué, hypersensible. Sylvain va raconter avec une grande transparence et beaucoup d'honnêteté son rapport au sexe qui a commencé beaucoup trop tôt, son rapport à l'homme puisque Sylvain est homosexuel, son rapport aussi aux autres, à sa sensualité, à son onanisme. C'est un épisode très dense, j'ai difficilement pu faire moins d'1h20 sur le sujet. Je tiens à vous préciser qu'il y a des moments qui sont un petit peu difficiles à entendre. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne écoute et d'accueillir le témoignage de Sylvain avec toute la bienveillance qu'il faut. Bonne écoute. Salut Sylvain.
Bonjour Anne-Laure, je suis très contente de te voir.
Moi aussi je suis très contente et je tiens à souligner que nous sommes en période de grève et que tu as fait du vélo, tu as affronté la horde parisienne de parisiens bien énervés et nous sommes, je ne sais plus à quel jour de grève, là genre en troisième semaine, donc merci.
On est dans la fin de la deuxième semaine, oui.
Tu parles depuis quelques temps, toi et moi maintenant, et, et très vite tu m'as fait part de ton envie de témoigner. Et donc ça y est, on y est. Tu as 50 ans.
Oui.
Tu m'as fait beaucoup rire avec tes mails. C'était assez...
Peut-être, oui, j'imagine.
Oui, je te confirme. Du coup, je vais commencer par la première question que tu connais, puisque tu écoutes le podcast. C'est quoi ton tout premier souvenir, Sylvain, qui
Alors,
est lié à la sexualité?
J'ai retourné cette question dans ma tête, parce qu'il y en a beaucoup.
C'est vrai?
Il y en a tellement que je dirais même que j'ai une enfance hyper sexualisée.
D'accord.
Mais... alors, pour ce qui est des premiers souvenirs ayant rapport au sexe, mais sans forcément d'excitation, mais de découverte, ça se passe chez ma nourrice. Donc j'ai moins de 6 ans,
oui.
Je pense que j'en ai 3-4.
C'est dans la petite enfance, là.
Petite enfance. On joue avec le fils, pas l'aîné, mais le cadet. Mais enfin, il a 3-4 ans de plus. Il a probablement 8-9 ans, on en a 3-4. Avec son fils et sa fille qui a mon âge. On est souvent pris sur le fait, puisque ma nourrice nous chasse, surtout c'est son fils, et qui
D'accord.
fait les 400 coups. Et ça en reste là. Il y a des érections de sa part, plus
D'accord.
que d'une autre, mais il y a découvert du sexe de ma...
De la petite fille.
De la petite fille
Donc vous jouez tous les trois, c'est quoi c'est
on
ce
joue,
qu'on...
Ben,
au docteur
on, ça, oui, on joue au docteur, à s'ausculter, que ce soit le sexe, l'anus,
D'accord.
Tout.
Et c'est lui qui est investigateur de ça.
Oui, c'est une certaine forme d'emprise.
D'accord, oui, il est plus grand, bah oui.
On a un peu. On le fait parce qu'il nous a encouragé à le faire, mais on. On n'est pas forcé à le faire, mais bon.
Oui, vous êtes dans, vous suivez le grand, quoi.
Voilà. Ça, c'est le tout premier.
Et la nourrice n'aura rien dit à ces jeux-là.
Ah, elle n'était pas contente. Elle savait que ça existait.
D'accord.
Elle nous chassait. Enfin, elle.
Oui,
enfin,
elle.
Surtout lui. Mais on continuait. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que de toute façon, à 6 ans, moi, je me suis gardé seul avec ma sœur aînée.
D'accord. Ah oui.
En face. Puis, ce sont restés nos voisins et leur fille est restée mon amie pendant toute mon enfance, mon adolescence. C'est revenu... Alors ça, c'était dans les années... donc, j'avais 3-4 ans, 73, on va dire. 98, c'est revenu sous forme de rêve.
D'accord.
Mais un rêve vivant. Où je voyais cet enfant cadet qui... on est dans la salle de bain avec
la petite fille.
Petite fille et lui est en train de faire une fellation à son grand frère. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille sur...
ce qu'il s'était
passé. Je ne sais pas ce qu'il reste, si j'ai des vrais souvenirs. Enfin, je ne pense pas que j'ai plus de souvenirs et qu'il y en a d'autres. Mais ça met un doigt quand même sur peut-être l'abus sexuel ou peut-être quelque chose... Je suppose que lui, il a été abusé. Enfin, bref,
mais pour qu'il reproduise ça à ces âges-là...
Il a une enfance extrêmement agitée. Le grand frère est homo. Voilà. Y a pas de quoi porter plainte, faire une affaire, mais bon.
Oui, ouais. Ça a laissé en tout cas des séquelles. Quand tu dis que tu as fait un rêve éveillé, etc., ouais. c'est ce qui t'a permis de comprendre, on va dire, la gravité, en tout cas l'importance ouais, que ça avait eu, toi, dans ton aveil sexuel. Ouais. Et tu es allé tirer ce fil-là.
Je suis allé tirer sur ce fil-là avec une psy, parce qu'il y en a eu quelques-uns, mais ça n'a pas donné grand-chose.
D'accord.
Jusqu'en 2008, mais on y reviendra plus tard.
Mm-hmm. Donc ça, c'est ce premier souvenir.
À la suite de ça, première colonie de vacances, donc 6 ans et demi, 7 ans, je pense qu'en fin du CP ou juste avant, je ne sais plus. Et là, là, c'est l'humiliation, je suis dans une colonie de vacances, un mois. Donc évidemment, pas de téléphone, ah pas oui. de texto.
C'est enfin, long, 6 ans et demi, 7 ans.
Une époque où on portait des uniformes, on portait pas ce qu'on voulait. À une époque où les moniteurs et monitrices n'étaient pas forcément là pour... Ils étaient là pour gagner de l'argent.
Oui, c'était pas très fun, quoi.
Et s'amuser entre eux. Heureusement, pour me protéger à l'époque et les deux premières années, même si les colonies étaient, il y en avait plein en France, je suis tombé. J'avais un adulte bienveillant en la personne de l'infirmière. Heureusement, ça a été mon point d'ancrage. Par rapport aux humiliations donc des premières colonies de vacances.
Ces humiliations, c'est quoi ? C'est les autres
enfants ? J'arrive pas à m'intégrer.
D'accord.
J'ai une petite voix dont je ne suis toujours pas fière, où il y a un complexe. Tu me demandais si je chantais en introduction, juste avant d'enregistrer. Oui, je chante, mais j'aimerais avoir une voix de basse. Et je le dis parce que c'est lié au reste.
D'accord.
Donc, on me traite de petite fille.
D'accord.
Et un des gars, on est dans une chambre, on est 6. Un des gars, juste à côté de moi, dit qui est capable de me sucer un soir à l'extinction du feu.
À quel âge a cet enfant ?
On a 6 ans.
Wow.
6-7 ans, wow. Et qu'est-ce que je fais moi ? Parce que je veux m'intégrer, et ben, je dis je suis cap, et je le fais, alors je fais un aller-retour, ça sent un pipi, enfin bon, c'est même
c'est
pas
du tout sexuel, c'est pas sexuel,
c'est,
oui.
C'est juste, et là, c'est au début de la colonie de vacances, c'était un enfer pour moi après. Mm. Pas un enfer où, bon, en fait, ils se sont foutus de ma gueule pendant 4 semaines. Ça, évidemment, personne ne l'a su. Même pas l'infirmière, mais elle a été bienveillante. Vous voyez bien que j'étais pas forcément très bien intégré. Donc tout ça a rapport au sexe, tout ça a rapport aux abus.
Ce qui est dans la ligne, à
l'ascendance.
C'est ce que j'allais te dire, et toujours dans une forme de victimisation qui est assez. C'est toi qu'on manipule, ou en tout cas qu'on. Ouais. C'est difficile.
Oui, alors je vais faire un bond. En 2008, rapide. 2008, j'ai ma première hospitalisation en psychiatrie. Ça se passe à Washington parce que j'habite là-bas. Et là, je tombe sur le... Parce que je suis sur le point de faire une tentative de suicide. Je me fais hospitaliser et je tombe dans un hôpital qui a une section pour les gays.
D'accord.
Et ça, c'est génial parce qu'aussi, il y a des groupes de support de jour.
Parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu es homosexuel ?
Oui, et je raconte ça dans les groupes de support de jour, enfin l'hospitalisation de jour, je le dis en rigolant. Ben, ma première fellation, c'était à 6 ans, en faisant ça, etc. Mm-hmm. Et là, je suis quand même une lesbienne qui me dit, non mais Sylvain, il faut arrêter avec ces conneries.
C'est grave.
C'est grave ce qui t'arrive. Donc ça a été encore une alerte supplémentaire.
Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années.
Il y a 10 ans, il y a 11 ans. Suite à ça, pas très longtemps après, j'ai fait aux États-Unis beaucoup de choses, explorer mon corps. explorer mon corps via des groupes bienveillants qui s'appellent Body Electric aux États-Unis, où on est sur les aspects érotiques et tantriques, mais dans le respect de la bienveillance. Et là, par le travail du corps, sans aller dans les détails, là, tout m'est revenu.
D'accord.
Là, je me suis vraiment réconcilié avec les émotions, les souvenirs, etc. Et je me suis réconcilié avec moi-même. Et là, ça a été clair.
Donc, dans ce parcours-là, c'est là où tu as pu, au-delà de la psychologie, de la psychanalyse...
Je le savais.
C'était ancré dans ton corps et c'est ressorti de cette façon.
Oui, je le savais intellectuellement, mais la connexion avec le corps, avec les émotions, est remontée là, à ce moment-là. Donc, oui, le travail par le corps, en tout cas, m'a été...
Sans tout raconter, c'est quoi exactement ce process de body électrique
groupe d'hommes, il y a aussi des groupes de femmes, il y a aussi quelques groupes mixtes. J'ai fait un stage d'initiation au tantra où, par exemple, on se retrouve vite à poil, mais on se met deux par deux en paire et ça consiste à... Il y en a un qui dit... L'un des deux, il y a l'un qui joue A et l'autre B. A dit, je veux que tu me fasses quelque chose. En fait, on fait expérimenter à l'un et l'autre ce que c'est que de vouloir obtenir quelque chose de l'autre. J'ai envie que tu me fasses ça. Alors, ça peut être une caresse, ça peut être...
Ok, n'importe.
Bon, on ne va pas jusqu'à la pénétration, etc. Mais enfin, on est quand même dans la sensualité. Et de recevoir aussi l'injonction, je voudrais que tu me fasses ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ça joue par paire. Et c'est très intéressant de l'expérimenter pour la première fois qu'on connaît pas le process.
Ouais, j'imagine, ouais.
Il y a tout un tas d'exercices.
Et ça permet de reconnecter avec son corps, sa sensualité, son désir, etc.
Ouais.
Ok, très clair. Donc là, c'est le bon 2008. Maintenant, on revient.
On revient aux années 75. La première excitation, alors à la même époque, ce qui a fait beaucoup rire mes parents, les voisins, etc. Je débarque un dimanche à l'apéro chez les voisins et je dis la nuit dernière, ou je sais pas, j'ai rêvé de plein d'hommes à poil dans la piscine. Je pense que c'était à la fin du CP, sans CP, on a commencé à aller
à la piscine.
T'as
7 ans.
Et ça fait rire tout le monde. Et moi, je suis hyper sérieux. Et à partir de ce moment-là, je pense que quelque part, on ne me prend pas au sérieux.
D'accord. Parce que la première fois que tu le verbalises, tu as des adultes qui rient.
Ouais. Et je pense que c'était très érotique. Enfin, c'était sensuel. Premier indice. Deuxième indice. Et là, le deuxième, ça a été à la même époque, peut-être le même été. Je vais absolument rentrer dans la salle de bain de mon oncle et ma tante dans leur maison de vacances, près de chez ma grand-mère. Ils ont fermé à clé. Je vais absolument rentrer pour aller aux toilettes. Et je regarde par le trou de la serrure et je vois les fesses de ma tante. Je vois pas mon oncle, mais je les vois. Ça dure un moment. Et je reste scotché.
À regarder ce qui...
Voilà. Et après, une fois qu'ils avaient 25-26 ans à l'époque, je fais semblant de partir, mais je continue de regarder. Je vois pas grand-chose, mais je pense que ça éveille, ça excite mon imagination. Et à la fin, de toute façon, ce dont je me rappelle, c'est que je rentre quand même en disant, bon ben, Sylvain, tu vas pouvoir rentrer, ok, faire pipi, etc. Mm-hmm. Et en même temps, mon oncle sort de la douche avec un sexe comme on l'a après avoir fait l'amour, il est quand même bien détendu, bien gonflé de testostérone, etc. Et là, je crois que c'est mon premier amour de ma vie.
D'accord.
Bon, après, c'est un bel homme.
Bel et faible qui sort de la douche.
Là, je pense qu'il n'y a pas de doute sur ce que j'aime, même si ça a fait son chemin.
On parlait de sexualité chez toi ?
Non, on ne parle pas de sexualité, mais à 10 ans, je vais être, je ne le sais pas encore, je vais être le grand frère de deux petites sœurs.
D'accord.
Qui vont avoir 10 ans de moins que moi.
Des jumelles ?
Des jumelles. En fait, c'est en regardant rétrospectivement sur ce qui s'est passé. Il n'y avait pas forcément de pudeur, parce que mon père avait encore son bouquin de l'armée avec des chansons paillardes, etc. Et c'était le gars à se balader à poil dans la
maison.
Dans la maison, etc. Mais pour moi, c'était impudique. Pour tout, enfin, c'était trop.
T'aimais pas ?
J'aimais pas, non. Non, on ne parle pas sexualité, mais je suppose qu'en en prévision de ce projet d'enfant, à 9 ans, je me retrouve hospitalisé 2 jours pour ôter une verrue. Je me retrouve une semaine, quelques jours à la maison. Ma tante et ma reine vient avec un livre sur la reproduction.
Mmh. Il voulait un
Le message passe. D'accord. Et là, toutes les questions fusent.
Comment on fait les bébés?
Voilà pour répondre à ta question. Et à partir du moment où j'ai vu que les adultes avaient beaucoup de plaisir, c'est surtout pour revenir sur mon oncle et ma tante.
Dans la salle de bain.
À partir de ce moment-là, quand je dis que c'était hyper sexualisé, je n'avais qu'une envie, une hâte, c'était de devenir adulte.
Pour ça.
Pouvoir faire l'amour.
D'accord. Mais tu avais compris ce que c'était que faire l'amour?
Non. Non, mais bon, c'était des frottements, c'était etc. À la suite de ça, à peu près au même âge, à 9 ans, je pars en colo. Là, c'est la première colo où ça se passe bien. Enfin, c'est la troisième, je pense, ou la quatrième, troisième. Et là, pareil, mon moniteur dort tous les soirs ou fait la sieste à chaque fois avec une monitrice. Et le soir, et là, je commence à me frotter au drap, mais spontanément.
En pensant au moniteur?
En pensant, oui, rien qu'à lui.
Donc les adultes?
Les adultes.
Tu pensais...
Les douches, où on avait des douches communes aussi, mais oui, je ne regardais que les adultes.
Oui, tu peux, ces jeunes hommes de 20, 25 ans. Ouais.
Et là, j'ai mes premiers orgasmes, jouissances, sans sperme. Ce qui va venir plus tard, mais je ne sais pas exactement quand, puisque... Un jour, je me suis aperçu que mon drap était vraiment extrêmement taché, qu'il était vraiment impératif que je le fasse plus discrètement.
Ta puberté, elle arrive à quel âge?
Alors, physiquement, les premiers poils à 10, 11 ans, 12 D'accord. ans. Et la puberté intellectuelle, 13 ans. C'est en D'accord. année de cinquième.
Okay.
Année de cinquième. Alors, je fantasme beaucoup sur les mecs mm-hmm. sur lesquels je me frotte et puis après je fais une masturbation quotidienne. Voilà, j'ai commencé à 9 ans, ça fait 41 ans et il n'y a pas eu d'interruption. Il n'y a pas eu d'interruption sauf une période de 6 mois dont je parlerai tout à l'heure.
Okay.
Pas eu d'interruption quasi quotidienne, bon à l'époque beaucoup plus fréquente que du quotidien.
Quand l'adolescence est passée par là, j'imagine.
Ouais, bien. En prenant des risques de me faire choper, mais bon, voilà. Je suppose que mes parents s'en sont aperçus d'une façon ou d'une autre.
Mais ça a été un grand silence sur le sujet.
Ouais, autant je me suis fait choper à fumer dans la semaine qui a suivi où j'ai commencé à fumer. Ma mère m'a pris entre
là, par
yeux.
Contre...
autant sur la masturbation.
Même ton père, t'en as pas parlé?
Non.
Okay. T'aurais aimé qu'il t'en parle? Ou avoir une discussion,
non.
En tout cas, non?
Non, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas. La question, c'est
Parce que de ce que tu racontes, j'ai l'impression que tu es toujours très seul.
Je suis le seul fils. Je suis le seul fils.
Et les copains à l'école?
J'ai des copains, des copines.
Vous en parlez?
Est-ce qu'on en parle? Oui, sans plus. Je n'ai pas eu d'expérience touche-pipi avec des gars de mon âge, etc. Juste en classe de 5e, en classe de mère, il y a ce garçon à qui on fait croire qu'il va avoir ses règles. C'est assez humiliant pour lui. Hein. Enfin, moi, je ne fais pas partie des gens qui le font, mais on se marre bien.
Ah d'accord, parce qu'il ne savait pas du tout comment ça se passait.
Non,
et vous...
non,
d'accord.
Non, il était un peu réservé.
Introverti.
Il aurait porté une cravate que ça n'aurait pas détaché, enfin D'accord. vraiment bien propre, etc. Et
ah, vous lui faites une mauvaise... Enfin, les garçons lui font une mauvaise blague.
Ouais. Ce qui nous amène justement à cette colonie de vacances, parce qu'en fait, c'est le même endroit il y a 9 ans, donc où je tombe amoureux de...
Du moniteur.
Hervé. et puis là, cette colonie, c'est le même établissement dans un autre cadre en Bretagne. Et là, j'ai un moniteur, alors qui lui est ouvertement efféminé, mm-hmm. qui me dit, et on a beaucoup de discussions ensemble, et un soir, vers 11h30, je pense, il vient me voir. On est de Saint-Grand d'Ortoir. Il me dit, Sylvain, je crois que tu es homosexuel. Alors, rétrospectivement, je trouve que c'était pas forcément un cadeau.
Tu veux te le dire ?
Non, parce que même si c'était évident, etc., je ne suis pas certain que ce...
C'était à lui de le dire.
C'était à lui de le dire, mais je l'ai croisé plus tard. Je l'ai recroisé plus tard quand j'étais à l'association Aide. Mm-hmm. Et pareil, il a supposé que j'étais séropositif comme ça. Enfin, je pense qu'il y a une certaine naïveté de sa part.
D'accord.
Qu'on va pardonner, mais qui fait des dégâts.
Quand il t'a dit ça, et t'as 9-10 ans, comment tu...
J'ai 13 ans.
13 ans, pardon. Donc...
Je me dis qu'il faut que j'arrête de me masturber.
Que tu penses que c'est lié ?
Non, mais enfin...
Oui.
Que de toute façon, je pense au mec en me masturbant. Donc si je... Voilà.
Si tu te masturbes
donc,
plus, tu penses plus au mec.
Pendant 6 mois, s'en suivent des tentatives de ne plus rien faire.
Mais pourquoi ? Parce qu'être homosexuel, pour toi, ça rimait à quoi ?
C'est compliqué à l'époque. Parce que je ne sais pas ce que c'est qu'être homosexuel. Mm-hmm. C'est être pédé. Mais pédé, ce n'est pas la même chose. Enfin, c'est vilipendé. Ah si, je reviens. Une fois, une de mes tantes, mais j'étais très jeune aussi, j'avais 7-8 ans, m'emmène dans Tours, puisque je suis d'origine tourangelle. Et dans un café, il y a un monsieur qui me regarde intensément avec ses yeux. J'avais de très beaux yeux.
Tu as toujours de très beaux yeux, Sylvain.
Voilà, merci. Et ma tante, ça la fait rire, elle me dit à celui-là, s'il pouvait te croquer, il te croquerait. Et là j'en ai fait des cauchemars.
Bah, le choix du vocabulaire, déjà. Et puis le fait de prendre ça avec autant de légèreté.
Ouais.
Ça passerait plus du tout aujourd'hui, en tout cas.
Ouais. Être homosexuel, pour moi, c'était compliqué, ce mot. En tout cas, je me sentais pas de l'assumer. J'en fais même un dessin à la même époque, son peignir. Alors on commence à peindre là en 6e, en 5e. Et je fais un gros nom. Je peins sur un gros format A4 nom avec un O qui est en colère. Et ma mère m'a rien demandé, elle m'a vu faire. Je pense que c'était vraiment arrête ça. Et puis bon, je reprends mes pratiques d'onanisme.
Mm-hmm.
Voilà, bon an, mal an. Et en même temps, bah, je sors avec des filles. Parce que ça me. À la même... Tu me parles de puberté. Ça ne m'empêche pas qu'à l'époque, à partir de la 5e. Alors, 6e, j'en avais une, mais à qui j'ai à peine tenu la main et même pas embrassé. Mais là, par contre, en 5e, j'en ai eu 7 en 9 mois.
D'accord.
Enfin, le donjon, quoi.
Donc, tu sors avec des filles.
Ouais, voilà, oui, on s'embrasse. Voilà, on s'embrasse. Ok. Voilà.
Donc
c'est pas désagréable.
Socialement, en tout cas, tu n'es pas le garçon au mot de l'école.
Non, mais je me fais traiter de tapette quand même.
Quand même.
Par un des gars de la 6e qui me, dès l'entrée en 5e. Alors. Il y a deux choses. Quand je rentre en 6e, ma sœur aînée venait de décider, une certaine ascendance de sa part, de me faire percer l'oreille parce que c'était...
D'accord.
C'était en 80.
Tu es le deuxième de la fratrie.
Le deuxième, oui. Ma sœur est un peu plus âgée et elle décide qu'on va me percer l'oreille. Chez le bijoutier, il demande à droite, à gauche. Nous, on ne savait pas, on a dit à droite. Je rentre en 6e, première semaine, je me fais traiter tous les noms. Je me suis fait prendre sous la coupe du plus dur de l'école.
Mm-hmm.
Mais au bout d'une semaine, j'enlève ma boucle d'oreille. Il n'y a plus de boucle d'oreille parce qu'elle était à droite. Même dans l'après-midi ou dans la journée même où j'ai été percé, je vais à la piscine parce que je regarde les mecs dans leur maillot de bain depuis l'extérieur de la piscine. Mm-hmm. Et on me demande si je suis pédé. Et moi, ça me choque. Et ça... Donc, si c'est des choses qui résonnent, pas forcément positivement, je ne sais pas trop quoi en faire, mais j'ai un...
Mais c'est, ça revient souvent, en tout cas.
Oui, ouais, y a ça. Et en début de 5e, comme probablement quelqu'un qui ne veut pas l'être et qui l'est encore plus en voulant le cacher, donc ce gars de 6e, avec qui j'étais très pote en 6e, me traite de Tantouse 1er ou Tantouse 2, s'il y en avait une autre. Et là, pareil, j'ai encore cette chance d'avoir des filles qui ont l'âge de ma sœur dans le collège et qui le prennent par les épaules.
Et qu'il faut comprendre que... Okay.
Donc j'ai été quand même assez préservée. J'ai des copines qui me disent, bon, avec tes brochings, tes parfums, etc., vraiment...
Tu avais justement... C'est ce que j'allais dire, tu as des... Enfin... C'est difficile, hein, mais est-ce que tu, si tu regardes le jeune homme, le jeune Sylvain à 13-14 ans, il y avait des signes, en tout cas extérieurs, qui auraient fait que...
Il y en a et j'en ai honte.
T'en avais honte ?
J'en avais honte et j'en ai toujours honte.
C'est-à-dire, c'est quoi les signes pour toi qui feront...
Bah, des signes féminins.
Des signes féminins.
Je ne suis pas forcément... Et pour moi, c'était... Enfin, ça me semble tellement inconcevable que mes parents soient aperçus de rien à cette époque-là. On n'est pas voulu voir. Parce que ça crevait les yeux. Ça crevait les yeux comme je l'apprendrai beaucoup plus tard, donc à 43 ans, il y a 7 ans que j'étais surdoué, et ça crevait les yeux à beaucoup d'adultes, sauf à mes parents.
D'accord. Mais bon,
comme ça. Là où il y a un retournement de situation, alors à 16 ans, j'ai ma première expérience sexuelle.
Avec ?
Une femme.
Une femme.
Un 1er mai. Un 1er mai, fête du travail. Donc ça, je m'en souviens bien. Une fille qui a 29 ans, j'en ai 16. Je fais une exposition.
Waouh.
Du centre où on faisait cette expo. J'étais malin quand même. Enfin, voilà. Ça va. On le fait quelques fois.
Comment tu la rencontres, cette fille?
En fait, elle fait partie du centre où on expose.
D'accord.
J'étais plutôt artiste. Je suis né dans son lit, très très clairement.
C'est elle qui mène la danse.
Mercredi après. Oui, oui, oui. Enfin, je force un peu. Enfin, voilà, ça se fait assez naturellement. Non, ça se fait assez.
Je veux dire, t'es pas complètement passif à 16 ans.
Non.
Tu sais où tu vas.
Je sais exactement ce que je fais. Je sais pourquoi j'y vais chez elle un mercredi après-midi. Je rentre rapidement au vélo juste après, et là, je tombe sur ma grand-mère qui ne venait jamais, qui habitait à 50 bornes, et qui me dit, mais Sylvain, ma parole, tu vas t'épuiser avant le mariage. Et là, je suis tout rouge. Je me dis, c'est pas possible. Bref. Voilà. À 16 ans, je retourne encore dans la même ville en Bretagne.
Mais alors, attends, cette première fois, oui. Sylvain. Ah, oui, pardon. C'est comment ?
C'est technique.
C'est technique. Je n'avais jamais entendu celle-là.
C'est assez rapide parce que dès que j'entre en elle, j'éjacule, je ne suis pas très fier.
Elle sait que c'est ta première fois ?
Elle se doute. On n'en parle pas. On n'en parle pas.
Ok.
Il y a eu d'autres fois. Il y a eu une jolie fois avec elle, une fois un soir d'orage chez des potes. Voilà. Ça ne va pas bien loin. C'est vraiment... on s'embrasse, on se pénètre, mais il n'y a pas de... À peine les seins, en tout cas pas de cunis, pas de fellation, etc.
Toi, ce corps féminin, il te plaît par rapport à tous les supports visuels masturbatoires que tu as eu jusqu'à maintenant qui étaient des hommes, et ça se... Tu arrives à le désirer?
Je ne peux pas répondre en ces termes. Non, il n'y a pas le désir que j'ai pour les hommes, hein. J'ai une ambivalence par rapport à ça déjà à l'époque, mais je me force pas pour autant.
Oui.
Voilà.
C'est un moment de sensualité.
J'ai pas un rejet pour autant du corps féminin. Okay. Voilà. Et puis pas longtemps après, la même année, celle-là c'était au 1er mai, en juillet, alors là c'est vacances familiales dans un grand centre familial, et là je fais ça avec une nana qui nettoie. Une nana de 21 ans, j'en ai encore 16, qui fait ça aussi avec le... Enfin, on est surpris par le cuistot avec qui aussi elle couche. Enfin, bref, je la reverrai quelques temps plus tard. Elle se pose des questions sur son attirance aux femmes, et moi, je lui avoue que je me pose des questions sur mon attirance aux hommes. Mais on a
mais
du
quand
plaisir.
Même.
Elle me fait des fellations, je lui fais pas de cunnilingus, il me vient pas. Voilà, ça se passe plutôt bien. Par contre, j'ai ma première MST avec
à ce
elle.
Moment-là. Aïe.
Donc juste après, je pars en colonie de vacances. La MST est diagnostiquée parce que c'est une bléno. Mes parents sont informés, je suis traité. Et quand je rentre, j'ai d'un côté ma mère qui me dit « Mais tu te rends compte, moi j'ai 40 ans, j'ai jamais eu aucune AVST. » Et mon père, fier comme un coq.
Ah bah, son fils est...
Voire rassuré.
Tu l'as senti rassuré ?
Probablement. Probablement parce que l'année précédente, tout ça s'entrecroise, hein, là, 15 ans, il a été filmé pour la télévision. Mm-hmm. Et je suis tombé, mais raide dingue, amoureux du réalisateur qui s'en est aperçu et qui a été super bienveillant avec moi. Mais je pense rétrospectivement qu'il a donné des éléments, enfin qu'il en a fait par mon père, mais de façon très bienveillante.
Oui, pédagogue, quoi, en tout cas.
Je pense que du coup, la MST de l'année suivante, c'est pour ça qu'ils m'ont aussi probablement laissé partir à retourner en Bretagne chez cette nana,
oui.
même s'il a fallu que je me batte un petit peu.
Oui, mais ils encourageaient quand même l'idée que tu es...
Ça rassurait.
Ouais, ça les rassurait.
Malgré les alertes par colonie de vacances où je tomberais de dingue amoureux dans la même chambre d'ailleurs, dans le même établissement de Claude. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une colonie de vacances axée sur le théâtre. Mm-hmm. Je joue un homosexuel, ce qui ne me fait pas forcément plaisir, mais bon. Mais évidemment, le rôle m'a échu parce que c'était naturel que ce soit pour moi.
Okay.
Mais ça ne me plaisait pas forcément. Voilà. Et en fait, là, il y a eu l'acceptation de l'homosexualité à ce moment-là, puisqu'il y a une fille sur ses 18 jours de séjour qui, elle, plus on avance dans le séjour, plus elle est en panique parce qu'elle sait qu'elle va retourner dans sa famille dans l'est de la France, mm-hmm. et va se faire battre.
Oula.
Et c'est elle qui, un soir, juste avant le repas, enfin un soir... début de soirée, me dit « Sylvain, vu comment tu parles de Claude, je pense que tu es amoureux de Claude, que tu es homosexuel et que ça te faciliterait de la vie de l'accepter. » Et je l'ai accepté.
Comme
j'ai embrassé l'idée. Ah oui, ça m'a libéré. De l'entendre de façon aussi sincère ou authentique de quelqu'un qui était en souffrance et qui ne trichait pas sur sa souffrance. Mm-hmm. Et qui nous manipulait pas, je me suis dit, bon, là, j'ai rendu les armes.
Puis là, c'est pour une fois, c'est pas...
Et puis là, j'étais vraiment raide dingue amoureux.
De Claude.
Le gars, je lui ai avoué, il n'était pas insensible. On n'a rien fait, mais il n'était pas insensible.
Ce qui est intéressant, c'est que cette jeune fille était, pour une fois, quelqu'un de ton âge.
Oui.
Et pas un adulte qui venait donner son, entre guillemets, diagnostic, même si le mot est très mal choisi. Et en plus, de façon, comme tu dis, bienveillante. Oui. Et qui t'avait livré, elle, sa souffrance. T'as des nouvelles de cette fille après ?
Non. Non, j'y pense toujours.
Ah ouais, elle t'a fait un super cadeau.
J'y pense toujours. Autant, 3 ans auparavant, le moniteur m'a pas forcément aidé.
Oui.
Et autant...
Là,
c'était vraiment quelque chose d'important.
Et donc, une fois que tu décides comme ça, entre guillemets, jour au lendemain, d'assumer...
En même temps, l'année précédente, ou l'hiver précédent, j'ai embrassé un garçon dans un ascenseur.
D'accord.
Tout se chevauche quand même.
Enfin, okay.
Je vais, à partir de ma 5e, le mercredi après-midi, à des cours de dessin aux Beaux-Arts. Je sèche rapidement parce que ça me gonfle. Et je vais dans des endroits de drague. Sans que je le sache, mais guidé par un certain radar.
Le fameux.
Je finis par aller dans un café où je me rends régulièrement, tenu par un homo notoire. De fil en aiguille, j'y rencontre Gribouille. On l'appelait comme ça, parce que je ne me rappelle même plus de son prénom. Il se faisait appeler Gribouille. Il avait 2 ou 3 ans de plus que moi. Enfin, il était majeur. 18 ans probablement. Et un jour, je suis chez lui, dans l'ascenseur, de façon très bienveillante, il m'embrasse une fois.
Voilà, ok. C'est voilà. Donc, ton premier baiser avec un garçon ?
Sympa.
Ouais. Sympa, et là, pour le coup, il y a...
C'est lié au parfum que je portais, qui venait de c'était juste avant la veille de Noël, je crois. Voilà.
Et ça lui plaisait, donc il t'a embrassé.
Il avait envie. Donc ça, c'était bien. C'était un cadeau. Mm. parce qu'on ne s'est pas embrassé beaucoup plus tard, à 18 ans, on a passé une nuit ensemble, mais c'était plus d'un camaraderie qu'autre chose.
Et donc là, tu continues ton parcours ouais. Sensuel, sexuel, avec l'autre. Donc, tu as ces histoires avec les filles.
Et là, je bascule.
Tu commences, voilà. Là, ça y est, après cette colo et
là,
ce...
Là, j'assume. Et à 17 ans, j'ai ma première expérience sexuelle avec un homme. Là, toute... Alors, toute première fois, c'était avec mon moniteur de colo.
Il y a colo. Un truc avec la colo, hein.
Dans le sud.
Ok.
Bon, quand j'y repense, les moniteurs ont le droit, je crois, à 2 jours off de temps en temps. J'obtiens de partir avec lui à Marseille.
C'est totalement interdit.
C'est totalement interdit.
J'étais mono de colo, c'est totalement interdit.
Alors, j'avais déjà touché son sexe. Ça, c'était plutôt sympa.
Mais ça, c'était... Comment ça s'est passé directement?
Il y avait une
attraction entre vous?
Une connexion. Une attraction, une connexion.
Okay.
Il avait 21 ans, j'en avais 18.
Oui. Bon. Ouais, là, la frontière, elle est...
Ou 17. La toute première fois, ça se passe quand même chez sa grand-tante qui vient de décéder, enfin qui a décédé quelqu'un. Dans une chambre à l'ancienne avec plein de bois, wow. Des croix, etc.
Tête de cerf,
une chambre funéraire. déjà assez impressionnante. Et puis on se met au lit. Et au bout de 5 minutes, j'arrête. J'arrête parce que je suis envahi. J'ai mes parents dans ma tête.
Aïe.
Je ne peux pas continuer. Et lui, heureusement, il est extrêmement bienveillant encore. Il me dit OK, on arrête. Donc on a dormi.
Lui, homo, aucun, enfin très à l'aise avec ça.
Il avait très envie de m'apprendre, de faire des trucs avec moi, mais on a vraiment pas poursuivi. Ça, c'est il a senti que j'étais.
Et qu'est-ce qui te bloquait de bon? Il y avait
c'était
voir tes parents, j'avoue.
L'image sociale, mais pas, vraiment là, c'était en fait, j'étais pas tout seul. Là.
Ouais.
Il y avait mes parents à côté. T'avais de moi qui me regardaient.
Ouais, la déception.
Non, la condamnation.
La condamnation, carrément.
Donc ça, c'est compliqué. Et puis plus tard, je fais ça avec le copain d'une copine qui...
Pareil, était pas...
Qui trompe son copain, mais bon, voilà. Ouais. Donc ça se passe, mais... Bon, c'est plus technique encore, pareil.
Et cette première fois avec un garçon ?
Cette première fois, c'est avec un Laurent. Et puis après, juste après, il y a eu un Eric. C'était super.
Et là, pour le coup, le désir est au rendez-vous.
En fait, voilà, moi, ce que je préfère, même si je ne rejette pas catégoriquement le corps d'une femme, depuis j'ai pu retoucher une femme sensuellement, je dis, je ne mets pas une croix, mais je n'ai pas envie de me retirer, revirer ma cutie. C'est suffisamment compliqué d'un côté que de l'autre.
Tu as déjà fait un bon travail.
Ouais, j'aime l'odeur d'un homme, j'aime ça, ses muscles,
le corps.
J'aime les aisselles,
ça, voilà, ouais. Comme ça s'explique pas quand t'es hétéro, t'aimes.
Voilà. Okay. J'aime ça et j'en raffole. Mmh. Voilà, ça m'énivre. Voilà. Mmh. Encore faut-il que ce soit quelqu'un que je désire. Voilà.
Comme tout le monde.
Toujours
hein.
Ça. Parfois, on. Voilà.
Oui, je comprends.
Voilà.
Et donc Laurent, puis Eric.
Puis Eric. Je ne vais pas aller dans le détail. Il y en a eu un certain nombre de mon âge, un peu plus âgé, etc. Ça a émaillé toute la fin de mon adolescence, période jeune adulte.
Et tu les rencontres où, ces garçons?
En sortant.
En sortant.
En boîte. Mm-hmm. J'avais une boîte gay, il y en avait même 2.
Ok.
Je fais une première expérience à 18 ans à 3.
Ok.
Avec un DJ, on me ramène chez lui, je ne sais même pas qu'on va être 3. Et
boum, surprise.
Et on y va. Et c'est plutôt agréable. Voilà, donc je crache pas dans la soupe, je profite du moment présent.
Et socialement, tu gardes...
Socialement, je sors avec Hélène.
Voilà.
Je
coucou
n'en rentre
Hélène.
Pas, je suis chez Hélène, voilà.
Ok.
Jusqu'au jour... À 19 ans, bon, je pars faire mes études à Strasbourg. Je rentre parce que je suis amoureux d'un gars à Tours. Enfin, pas seulement. Première grosse dépression. Je sors beaucoup jusqu'à l'année scolaire suivante. Je pense que mes parents ont eu des indices, mais plus de gens... Bah, en fait, je fréquentais un mec qui était amoureux de moi, avec qui j'ai rien fait, et qui s'est un peu introduit dans ma vie. Comme il n'a pas pu le faire sensuellement, il s'est comporté comme s'il était mon copain et qu'il l'assumait, et qu'il a dû appeler ma mère pour dire ah, c'est pour Sylvain, pour son ordinateur, on va le revendre, etc. Et elle a dû lui demander, voilà, il s'est présenté comme mon copain. Ce qui se passe, c'est que le 8 août 88, quelque chose comme ça, peu de temps après en tout cas, et là c'est le sketch de Sylvie, de Muriel Robin. Vraiment un sketch. Je travaille. Je viens d'avoir mon bac. Je travaille. Non, c'est l'année suivante. Bref, je travaille. Je suis à l'hôpital. Donc, l'après-midi, je ne travaille pas, par exemple. J'attends un rendez-vous, de partir pour un rendez-vous. Et ma mère rentre.
T'es à l'hôpital ?
Je travaillais à l'hôpital.
Ah, tu travailles à l'hôpital, pardon.
Ma mère, je regarde la télé paresseusement. En me reposant, et ma mère rentre dans un salon qui brille et qui est nickel, qui fait mine de frotter.
Ah,
et
oui,
donc
je vois
là,
tout
elle me balance deux questions, mais Alan Muriel Robin, t'as déjà couché avec un garçon? Oui. Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu comptes continuer? Oui. Et elle repart.
Avec son plumeau toujours propre.
Voilà. Et ça, c'est... Voilà. En général, je limite en faisant des gestes.
Ouais, j'imagine.
Donc ça, je pense qu'ils et le lendemain, le soir même, je les entends discuter dans la chambre d'à côté, mais pas distinctement. Et le lendemain soir, grosse discussion avec mon père et ma mère. Je la prends par le collier, mais vraiment, je lui dis bon, maintenant que tu lui as lâché le morceau, tu vas monter aussi.
Et est-ce
c'est la première fois que je l'ai pris par le callback.
Est-ce que ta sœur aînée était plus petite sœur, vous en discutiez?
Non, alors. Comme mes parents ont eu confirmation ce jour-là, ils m'ont fait promettre de rien dire à mes sœurs jusqu'à leur majorité. J'ai tenu.
Donc les petites ?
Oui.
Et la grande non plus ?
La grande n'est pas là. Ma grande, elle est aux États-Unis.
D'accord.
Enfin, elle est partie.
Elle n'est plus là.
Elle est plus là.
Et les petites, il ne fallait pas le leur dire ?
Non, ma mère m'a balancé des trucs, mais dans la détresse... Tu le dis pas, mais tes petites sœurs, avant leur majorité, est-ce que j'ai tenu ma promesse? Elles m'ont cherché avant. Hein. Voilà, mon père, je leur ai confirmé tout ça. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Comment voulez-vous que je vous le dise plus tôt? Enfin, c'est même compliqué dans ma tête, même sur le mot homosexuel à 13 ans. Donc, et puis, vous ne m'avez pas entendu à 6 ans, quand j'ai dit que je rêvais d'homme à poil dans l'eau. Enfin, ça, je ne l'ai même pas dit parce que je n'ai même pas eu la présence d'esprit d'en parler. Donc ça, c'est dur pour eux. Je pense qu'ils étaient surtout inquiets par rapport au sida. Donc le lendemain...
En plein dedans, là, en plus.
C'était en 87, 88. Et le lendemain, mon père, sur sa voiture de travail, il avait mon résultat de test HIV. Donc ça les a calmés direct.
Oui, tu couchais avec Capote à l'époque ?
Non, mais il n'y a pas de pénétration.
D'accord.
En fait, très peu de temps après, je rentre dans la vie active, on va aller vite. Et très vite, en entrant dans la vie active, j'entre dans l'association Aide. Puis Acide Info Service. Comme bénévole. Et c'est grâce à cette activité bénévole et cette formation que je me protège. Je l'ai fait une fois sans me protéger, je me suis fait dépister juste après. Voilà. Première pénétration avec un mec pas douloureuse, mais technique.
C'est le mot. Technique.
J'en parle jamais comme ça dans ces termes, mais voilà.
Mais oui, je comprends.
Physique, bien physique, mais plaisir, non. Serré, pas lubrifié, enfin à sec.
Donc technique.
Technique. Je me refuse à un autre dont je sais que dont tout le monde dit qu'il a le VIH, donc là je me refuse à lui. Donc on fait autre chose.
D'accord.
Donc je fais.
Quand même.
Je trie, mais
tu
bon.
Tu fais attention quand même. Ouais.
Voilà, je rentre dans la vie active.
Tu vis où à ce moment-là?
En fait, je suis entre Tours, puis La Rochelle. Et puis à Paris après.
D'accord.
Où je fais mon stage de fin d'études et je reste. Je sors avec un certain Albert. J'étais pas hyper porté sur autre chose que frotti-frotta, les trucs sensuels, la fellation, etc.
Ça te suffisait assez...
Non, mais je pense que c'est un temps d'apprentissage.
D'accord.
Parce que c'était pas, j'étais pas, même si dans ma tête c'était hyper sexualisé depuis très jeune, ça a pas, c'était pas évident pour moi. C'était pas naturel. Enfin, voilà, j'y suis allé progressivement jusqu'à Albert, qui m'a proposé de me prendre. J'ai dit ben non. Puis le lendemain matin au réveil, il m'a dit, j'ai fini par céder. Voilà, il y a encore un consentement, machin truc. J'ai cédé et il m'a sorti un truc, mais dégueulasse. Il m'a dit, tu vois, t'aimes ça, salope.
Waouh, Albert, c'est déconné.
Bon, de toute façon, ça n'a pas duré plus longtemps que ça. Moi, les mots crus comme ça, ça me fait rire aujourd'hui.
Oui.
À l'époque, je trouvais ça assez humiliant, insultant. Mais ceci dit... Ceci dit, il a éveillé quelque chose en moi, même si ce n'était pas forcément très agréable à entendre. C'est que oui, j'avais peut-être envie de l'explorer. Voilà.
Là, tu as quel âge à peu près ? Vingtaine ? Ouais, début vingtaine.
Oui.
Okay.
En fait, entre 21 ans et 31 ans, bon, après, je vais avoir une relation longue de 3 ans et demi avec un gars qui en a 14 de plus que moi.
Exclusive ?
Exclusif,
enfin
monogame. On va explorer beaucoup de choses, lui et moi, puisque lui, il en a 38 à un moment donné. Je suis quasiment son premier mec, puisqu'il a toute une vie hétéro avant. C'est ça que j'adore. Hein,
d'accord. Quand même. Enfin, donc il aura une vie établie, sociale.
Précédente, il s'est compartimenté sa vie. Voilà.
Tu vas devenir son amant ?
Je suis... Non, je suis son copain.
Il est déjà... Non, mais déjà il
à
est
Paris,
plus...
je suis son copain.
Mais il n'est plus avec sa femme.
Ah non.
Oui, c'est ça. Je veux dire, tu oui. n'es plus... Tu n'es
non,
pas...
Non, il a fait un choix, mais...
Il a fait ce choix.
Le compartiment de sa vie entre sa famille, son travail, etc.
Ok.
On fait... Voilà, on découvre tout ça ensemble et c'est super.
Il est comme toi, dans une approche de prendre son temps,
ouais.
bienveillante, ouais. Ouais. respectueuse.
Ouais. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Ça n'a pas toujours été simple entre nous, mais...
Sur la sexualité, ça a été...
Oui.
Vous êtes apporté beaucoup.
Sur un malentendu. Il n'est pas très beau comme garçon. Ce n'est pas toujours ce qui compte.
C'est subjectif aussi.
Un soir, à la fin d'une permanence de site d'infoservice, je dis « Ah, c'est mon anniversaire, qui me ramène ?» J'ai du rhum que j'ai ramené de Guadeloupe. Et puis, on est trois. Et puis on boit une bouteille de rhum.
À trois. Bah dis donc.
Et on finit à trois au lit. Mais au final, à la suite de cette nuit-là, on s'aperçoit que lui et moi, Jean-Louis et moi, on a envie de continuer quelque chose. Il y a une connexion qui se passe. Il y a voilà, au-delà de...
Il y a un truc.
Voilà. Et ça va durer 3 ans et demi. Bon, il y a une rupture de 11 mois dedans, mais on va dire que ça dure 3 ans et demi. Une belle histoire. Mais à part cette histoire-là, où vraiment on découvre tout ensemble. Et on aime y retourner. Plus on se connaît, plus on aime y retourner ensemble. Et
donc tu parles de quoi ? Tu parles de
club ? De la sexualité. Non,
juste la sexualité.
Juste dormir ensemble, faire l'amour ensemble.
D'accord.
Plus ça va, plus il y a une intimité qui s'installe.
Une vraie intimité de couple.
Oui, et qui se construit, qui s'ajoute, et il y a le plaisir d'y retourner, de se retrouver, de voilà. Même les 11 mois de séparation ont fait que ça a décuplé les choses. Enfin, voilà, j'ai touché à ça une fois dans ma vie. Mais à part ça, juste une année ou deux avant de rencontrer Jean-Louis, j'ai rencontré un mec chez qui je m'installe rapidement, ce qui était une erreur parce que c'était un pervers narcissique. Donc, j'ai aussi connu ça.
Aïe.
Je suis parti très vite. C'était plutôt bien sexuellement, mais un mec bien tordu quand même. Bien dans l'emprise. Mais 17 ans de plus que moi. J'ai toujours été amoureux de, des hommes qui ont 40 ans. Et toujours. Sauf que maintenant, j'en ai 50.
C'est passé de l'autre côté. T'as voilà. cristallisé un voilà, truc sur la quarantaine.
Je sais pas. J'aime bien les hommes masculins avec des grosses voix, etc. Mais ça, c'est par rapport à mes complexes. Mm-hmm. Alors que je suis pas sorti avec des hommes comme ça. Mais c'est sur, ce sur quoi je kiffe.
Et donc, tu disais, à part l'histoire avec Jean-Louis, il y a eu pendant après, 10 ans...
Non, en fait, parce que, enfin, ça a un lien avec aujourd'hui, c'est que pendant 10 ans, enfin, oui, c'est ça, de 21 ans à 31, je, à part voilà, la sortie annuelle qui va faire que je rencontre un mec, il ne se passe rien d'autre.
D'accord.
Ma vie sexuelle, à part l'onanisme, est vide.
Comment tu l'expliques, ça ?
Je suis timide.
Ouais.
Enfin... Quand on me connaît bien, on sait très bien que je ne suis pas timide.
T'es les fameux introvertis, extravertis.
Ouais. Gagne à être connu. Mmh. Voilà. Et,
besoin d'être dans le terrain de confiance.
Je pense qu'il y a aussi... je crève d'envie d'être avec quelqu'un et que ça se voit tellement... Enfin, voilà, je me police parce que je crève d'envie d'être avec
quelqu'un. D'accord.
Il y a 10 ans, entre 32 et 42, on va dire, où là, il y a eu la... révolution sexuelle. Voilà, il se passe que je finis par rencontrer encore à une soirée un super mec, Frédéric. On s'embrasse, il n'est pas libre, on se voit plus, il me revient à la charge.
Il a quel âge, Frédéric ?
Bah, j'ai quoi ? J'ai 30 ans, il en a 35, enfin voilà, on a à peu près mon même âge. On va dire qu'on a le même âge. Et quand il revient à la charge, je lui dis, tu sais, je suis vraiment très attiré par lui, il est très par moi, mais je trouve que c'est très névrotique, enfin il y a un truc de pas sain.
D'accord.
Et je lui dis tout de suite, je lui dis, on se tourne autour, etc. Bref, cette histoire dure 6 mois. Il y a des allers-retours, sans jamais s'embrasser, etc. Mais on se cherche, on fait des trucs ensemble, on se promet des choses, etc. Et puis, il y a une grosse rupture à la mi-décembre. Enfin, voilà, il y a un bel échec sentimental, on va dire. Tout en sachant que c'est un échec sentimental par rapport à quelque chose que je voudrais, mais que je ne peux pas obtenir.
Mais il y a un échec sentimental sur une relation qui n'a pas été...
Et qui était jouée à l'échec.
Qui n'a pas... commencer, ouais.
Avec plein de promesses et dont je savais que c'était dangereux d'y aller. Enfin bref.
Mais dangereux pourquoi ?
Parce que j'étais dans une attente affective et que lui, il était dans une attente de se mettre avec quelqu'un sans avoir dans une relation monogame exclusive, sans aller à droite à gauche. Enfin, je sais pas.
D'accord.
Des trucs.
En tout cas, vous, c'était pas compatible à ce moment-là.
Je le disais, je le pointais du doigt. Enfin, je le pointais du doigt, je le disais.
Il n'était pas d'accord.
Il y avait une attraction. Ah si, mais on était dans une telle attraction mutuelle. Enfin, c'était un truc assez dément.
Et c'est physiquement, ça n'a jamais conclu.
Non, parce que j'étais encore timide. Il m'aurait sauté dessus, je me serais laissé faire, mais là, je n'étais pas encore passé à l'étape suivante.
D'accord.
Et là, pendant 6 mois, il n'y a plus aucune érection, plus aucune séance d'onanisme quotidien, il n'y a plus rien.
D'accord.
Il n'y a plus rien, mais à l'intérieur, ça monte. Enfin, je m'en aperçois au bout de 6 mois. Et à l'époque, je fais de la natation synchronisée et masculine. Et je demande à un de mes potes de m'emmener, de me déposer un soir dans un sauna. Ce que je n'ai jamais osé faire.
Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Ça montait trop ?
Je pense que j'avais envie d'explorer. Mm-hmm. J'étais très terrifié à l'idée d'y aller, etc. Et c'était à l'époque de l'explosion d'Internet aussi. Mm-hmm. Pas encore du porno sur Internet, etc. Et donc j'y suis allé, il m'a déposé, hein, il ne m'a pas emmené dedans. Et puis après, à partir du moment où j'étais dedans, c'est comme les examens, on a très peur jusqu'avant, une fois qu'on est dans le bain, puisqu'on parle de bain, voilà, je me suis...
laissé porter.
Et là, c'était la grosse révolution sexuelle pendant 10 ans.
Donc tu as fréquenté que des saunas ?
Non, les sites de rencontres. Oui.
En tout cas, tu as changé ton mode opératoire.
Ouais, oui. Des plans à trois, des partouzes aux États-Unis notamment, puisque j'ai vécu 3 ans aux États-Unis de 2008 à 2010. Des trucs, voilà, plein de trucs sympas.
Mm-hmm. T'en gardes un bon souvenir ?
Ouais, au point où ça devenait... En fait, c'était encore comme un coming out parce que comme c'était tellement libérateur.
Oui, tu rentres dans une sexualité qui
te... Un petit peu névrotique quand même, mais tellement libérateur. J'en parlais autour de moi.
D'accord.
Et c'était presque indécent. Ah oui, mais moi, là, j'avais plus de barrière, là.
Ah, t'as passé ton temps à te...
Comme toutes ces... Ou comme les gens qui font leur coming out, ce qui m'est pas trop arrivé sur mon coming out homo, où on le raconte à tout le monde, à tout bout de champ, etc. Quitte à saouler les gens... Là, ouais, j'ai bien saoulé les gens avec ma...
Mais tu racontais quoi ? Ce que tu faisais ou tu allais ?
Très, très cru et très dans
très cru. Ouais, okay.
Ouais. Enfin, ça dépendait de mon public. Mais
bien sûr.
Mes sœurs ont su, une de mes sœurs en tout cas a su.
T'avais besoin d'en parler ?
Ah oui, j'étais très libéré. Très libéré, content de le vivre. J'ai embrassé ça. Alors, je suis très content de l'avoir fait qu'à cette époque-là, parce que si je l'avais fait 10 ans plus tôt, sans me protéger, ça aurait été...
Mm-hmm.
Un peu plus problème. Je sais pas.
Bien sûr, tu peux pas refaire l'histoire,
mais
c'est sûr.
Bon,
Et sur les sites, c'était quoi ? Tu allais sur quoi ?
Ça s'appelait... Le premier s'appelle M for Men for Sex.
Ok, c'est assez explicite. Tu peux pas te
non,
louper.
Non, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a eu.
Les saunas, tu y allais aussi aux États-Unis ?
Oui.
Ah, je me demandais si ça existait, c'est comme
pauvre,
c'est très puritain.
C'est pauvre, tous fermés.
D'accord.
Avec l'arrivée du sida.
Ok.
Autant à Paris, où nous sommes là, il y en a une dizaine,
mm-hmm.
peut-être plus. Quand à New York, qui n'est pas en plus grand, il y en a 2.
Donc tu as cette vie-là.
J'ai cette vie-là, que je continue d'avoir aujourd'hui, même si tout ça s'est calmé. Surtout quand je quitte Paris et que je vais dans une ville que je ne connais pas.
D'accord.
Et surtout à l'étranger, j'ai la libido qui remonte.
Mm-hmm.
Peut-être aussi par désœuvrement, mais il y a quelque chose qui monte et j'explore. Pas systématiquement, quand je suis seul, mais voilà.
Tu sais combien tu as eu d'amants ?
Ah non.
T'as répondu tout de suite.
Il y en a même dont je ne connais même pas...
Les prénoms ?
Les prénoms.
Ah oui.
Non, ça non. Il y en a dont je me souviens très bien, mais...
C'est à ce moment-là, c'est frénétique ta façon de consommer
oui.
le sexe ?
Oui, c'est frénétique, mais dans le sens... pas forcément rattraper le temps perdu. J'embrasse. Je sais qu'il y a un côté quand même assez frénétique, mm-hmm. névrotique, mais j'y vais.
Mm-hmm.
J'y vais avec joie.
Ok.
Je me suis aperçu que quand je vais au sauna, il vaut mieux en avoir envie que d'y aller par désœuvrement. Il vaut mieux y aller quand on a un bon mood. Que quand on est un peu déprimé, parce
oui,
que
ça peut paraître un peu
quand
glauque.
On est un peu déprimé, de toute façon, il ne va pas se passer grand chose.
Ouais, parce que tu dégages en plus les jeux. Enfin...
Voilà. Moi qui suis plus bottom versatile, donc je me suis découvert qu'on me prenait pour un top versatile.
Alors il faut que tu expliques aux gens qui ne savent pas ce que c'est.
Voilà, ça c'est le langage donc, actif pour top et
passif pour bottom.
Passif pour bottom et versatile, c'est vice versa.
C'est ça.
Voilà. Ça dépend, mais voilà.
Et donc là, tu consommes ce sexe-là pendant une dizaine d'années.
Ouais. Aujourd'hui, c'est
et
vraiment
maintenant, on est aujourd'hui.
Une fois par an.
Ah oui.
Une fois par an.
Il y a une date précise ?
Non. En général, c'est quand je fais quand je rentre d'une longue retraite de jeûne thérapeutique ou d'un...
J'aime voilà, bien cette ambivalence.
Quand je rentre d'un truc où je me suis bien nourri spirituellement...
Oui, c'est ce que tu me disais, tu pratiques le jeûne. Ouais.
Le jeûne, tout ça font qu'il y a une énergie qui
probablement, bien
qui,
sûr.
Qui,
oui.
qui s'ajoute, qui se reconstruit, qui se régénère.
Et tu te...
Quand je rentre là, oui, je sors de là, oui, j'ai
tu envie. Te sens capable d'aller au sauna.
Ouais.
Ok.
Très peu les applications.
Pourquoi ?
Ça me gonfle. Autant j'étais patient. Bon, avant c'était sur le web, maintenant c'est des applications sur iPhone. J'y suis là par des œuvres. J'y suis plus par des œuvres qu'autre chose. Je voulais juste dire une chose. Là où c'est devenu une œuvre névrotique, c'est quand. Alors, moi je consomme beaucoup de porno aujourd'hui.
J'allais te poser la question.
Beaucoup de porno. Donc à partir du moment où c'était plus facile sur internet, c'était quand même beaucoup plus simple, surtout en streaming. Ça me plaît beaucoup, c'est facile. voire trop facile, mais bon, voilà, on consomme à la minute.
C'est ça.
En même temps, on peut explorer tous les fantasmes.
Et donc, du coup, tu as des choses récurrentes ou toi, tu explores tout ce qui se passe, tout ce qui passe ?
J'explore pas tout.
D'accord.
Le scato, etc. Enfin, tout ce qui est BDSM, non. Même si j'ai eu quelques partenaires BDSM qui, eux, l'étaient. Moi, ça me fait rire. À un moment donné, j'explose de rire. Enfin,
parce que tu intellectualises trop, voilà. Peut-être.
J'en ai eu un qui était vraiment à fond dedans.
Qui était domi
mais... On n'était rien, lui et moi. Parce que d'accord. Lui, il savait que je n'étais pas dans ça. Il n'y avait pas de soumis. Pas... Mais je lui ai... Donc, les pires choses que je lui ai faites, parce que lui, il allait vraiment... D'abord, c'était de prendre un scotch brite et de frotter contre ses tétons.
Donc, c'est lui qui était soumis.
Mais c'était rien par rapport à ça. Hein. Oui, il était plutôt soumis. Le prince Albert avec des clous.
Ah oui.
Pas le prince Albert, le cock ring plutôt.
Ah, clous. Le cock ring, ok.
Il avait un énorme prince Albert. Bon, ah. Moi quand j'ai découvert ça, j'ai pas fait mon bagel, j'y suis allé.
Oh, pas bah dis donc.
Ouais, non,
quelle
moi,
jolie décoration.
J'explore. C'était très fort entre nous, mais voilà, c'était une impasse.
Oui, puis vos sexualités n'étaient pas très compatibles.
Bon, il y a des choses sur lesquelles j'ai dit non. Quand il m'a dit, je voudrais que tu m'appelles Kim, je veux être ton chien, je veux être au bas de ton lit pour toute la nuit. Je dis non, tu restes avec moi. Et non, je ne joue pas au chien et au maître.
Oui, mais tu ne trouves pas, toi, un plaisir particulier.
Non, et on était dans le fantasme, c'était un grand motard, ça c'est le fantasme.
D'accord.
Le motard masculin.
Très viril.
Très viril.
Qui aimait quand même qu'on lui scotch brite les tétons.
Oui,
hein.
Oui, bien sûr, bah, oui, bah, faut connaître la vie intime. Et là on rigole.
Ok.
Un autre aux États-Unis qui ne pouvait bander que s'il respirait mes chaussettes sales. Donc
wow.
Un très beau mec.
Wow.
Modèle.
Ça, c'est un nom. Comment s'appellent ces fétichistes ?
Je ne sais pas.
C'est un nom, hein, les fétichistes de chaussettes.
Quand
et de...
il m'a demandé en anglais, je me suis dit, oh, j'ai dû confondre socks avec condom. Et puis, en fait, non.
Non, non.
Donc, voilà. Et puis, dans mes ateliers tantriques aussi, il y en a un qui ne pouvait bander que si je lui pinçais vraiment très fort les tétons. C'est impressionnant. Parce que tant que ce n'est pas violent, et etc., il n'y a rien. Mais par contre, après, ça se dresse.
Et dès que tu fais...
Moi, j'étais mort de rire. Bah voilà, moi je, okay. À un moment donné, bon, je bascule dans le fou rire.
Oui, bah après, oui. Je...
Enfin, intérieur.
Oui, oui.
Donc, j'ai accumulé pas mal d'expériences.
Avec des divers et variés.
Avec beaucoup d'humour.
Toi, t'as pas de limite.
Si.
Quand t'as pas de limite, c'est-à-dire que tu peux tout écouter. En pratique,
oui.
Je sais que je.
Bonne écoute, oui.
Voilà, mais ce que j'allais te dire, c'est en pratique, évidemment, tu as des limites et c'est normal. Mais j'ai l'impression que tes partenaires peuvent tout te dire.
Oui.
Après, tu disposes.
Oui,
mais...
oui. Non,
j'ai l'impression que tu as ça.
J'entends, je reçois.
Et il n'y a pas de jugement.
Non.
C'est chouette.
Tout.
Donc
j'entends
dis...
tout. Il m'arrive encore de craquer pour une nana.
Ah oui ?
Oui, oui. Dans ces fameux groupes de parole là, à Washington, lors de ma première hospitalisation, à un moment donné, on a rigolé parce que les lesbiennes disaient que de temps en temps, elles craquaient pour des
crushs mecs, pour des
nous,
garçons.
Les mecs ont craqué pour des nanas, sans aller
oui.
Jusqu'à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui me fait fantasmer, notamment dans le porno et ben, les trios bisexuels.
Okay.
Deux hommes, une femme.
Deux hommes, une femme, ouais. Ok.
Tous les tabous, en fait. Père-fils, mais on n'est pas dans de la...
Alors, autant le trio,
trio
bon, on n'est pas sûr du tabou.
Non, et après, il y a les trios, les mises en scène, enfin, ce qu'on appelle les mises en scène, parce qu'il y a beaucoup de ça dans le porno, et notamment dans le porno gay, je crois. Mais, enfin, je ne suis pas forcément un expert non plus.
Mm-hmm.
En tout cas, je ne me prétends pas un expert. Le militaire, enfin, tout...
Il y a toujours
les...
quand même un fil conducteur de pouvoir, hein.
Ouais, tout ce qui est masculin, ultra masculin.
Enfin, en tout cas, oui, c'est ouais. Cette masculinité.
Sans
là.
Tomber dans le bifi, le musclé, voilà, les rapports de domination, je supporte pas, et les gamins non plus. Donc, mais y a plein de choses entre. J'aime bien les mecs bien dessinés, les tatouages, les cheveux longs, les rouquins. Je suis découvert une passion pour les rouquins il y a 10 ans, voilà, il y a 15 ans maintenant.
Team Ginger.
Voilà. Ce qui, je voulais le dire tout à l'heure. Voilà, ça c'est mon rapport au porno.
Mm-hmm. Tu consommes quoi ? Bah, en termes de fréquence.
Une fois par jour.
Une fois par jour.
Bah, ça ne dure pas 3 heures non plus. Hein. J'ai encore un objet, là, j'ai un god
mm-hmm.
réalistique. Je l'ai beaucoup exploré il y a 10-15 ans, là, quand j'ai eu cette liberté sexuelle.
Oui, avec
du poppers aussi.
Ah oui.
Pour la pénétration.
Ça dilate les vaisseaux sanguins, c'est ça?
Ouais. Après, c'est de la chimie. Hein.
Ouais.
Ça, ce que je voulais dire, c'est que ça me semblait important. J'ai un rapport compliqué aussi avec, ça va te surprendre, enfin, parce que je l'amène maintenant seulement, la marijuana.
Ok.
Bon, j'ai beaucoup fumé entre 13 et 17 ans. Je m'y suis remis à 17 ans, parce que c'est en fonction des gens que je fréquente.
Ok.
Je suis addict sans être addict, je pense que je le suis un peu quelque part, mais aujourd'hui, et c'est là où je me suis aperçu que cette énergie sexuelle, cette révolution sexuelle, etc., était en train de baisser, enfin il y avait un truc. Alors moi c'est l'inverse, ah. moi ça m'excite,
okay,
moi ça me met dans un état, mais...
Genre libido high quoi.
À la limite où j'en ai besoin pour avoir du sexe, notamment pour D'accord. aller dans une partouze, enfin c'est ce que j'ai fait aux États-Unis, mais... Et j'aime beaucoup faire ça quand je vais au sauna aussi.
D'accord. Mais tu fumes tous les jours ?
Non.
C'est vraiment dans ces moments-là.
Occasionnellement, quand j'en ai, oui, enfin, je n'en achète plus. Enfin, ça m'a causé des problèmes de santé aussi parce que je prends des antidépresseurs à côté. Enfin, bref, j'ai un...
C'est pas très lié tout ça.
C'est-à-dire que j'ai aussi un autre coming out dans ma vie entre homo, abusé sexuellement, enfin entre guillemets.
Oui, mais on s'entend.
Il y a eu aussi il y a 7 ans le test de la douance, donc un QI élevé,
mm-hmm.
surdoué quoi, au potentiel. Et c'est surtout ça qui me rend vulnérable au THC, enfin à ces produits.
À ces molécules-là, oui.
À ces molécules-là. C'est plutôt ça qui me perturbe. C'est pour ça aussi que je suis en échec thérapeutique, puisque je suis sous antidépresseurs en permanence.
Depuis quand ?
Depuis très longtemps maintenant. Et ça me maintient à un niveau. C'est ma vitamine du matin, on va dire.
Et c'est,
mais ceci dit, ça fait mauvais ménage quand même avec oui. Les oui. substances. Mais même sans les antidépresseurs ou les produits, je pense que le THC, donc, qui est contenu dans la marijuana, fait mauvais ménage avec le fait d'être surdoué. Il y a des équilibres chimiques qui font...
Il y a des études là-dessus ou c'est toi plus une observation personnelle ?
Il y a des études officielles, non. Beaucoup de suspicions, en tout cas parmi toutes les personnes qui sont surdouées, oui. C'est connu.
Oui, d'accord, ça revient en tout cas.
Non, il y a...
Mais c'est vrai que je suis étonnée parce qu'on dit souvent que le THC casse la libido.
Non,
et...
pas du tout chez moi.
Et voilà,
ah
c'est
bah non,
étonnant.
Moi,
hein.
c'est...
D'accord.
Ça booste.
Ok.
Non, ce qui va aujourd'hui, avec l'âge d'ailleurs, me faire débander, c'est... Alors qu'avant, c'était pas ça, c'était le poppers.
Ok.
Le poppers, aujourd'hui, je le retarde le maximum, comme on me propose. Je dis jamais non.
Parce que t'es poli.
Voilà, je suis très poli.
Un garçon poli.
Non, en fait, j'aime bien les excès aussi. J'aime bien enfreindre. J'aime bien, voilà. Mais j'en ai pas chez moi. J'en achète pas. C'est comme le chocolat.
Ok.
et puis, je sais que ça me fait du mal aussi. Moi, personnellement, je dis pas que ça fait mal aux gens.
Non,
mais,
non, bien sûr. Toi, ça ne te réussit pas.
Que ça me réussit pas forcément à outrance. Par contre, occasionnellement. C'est okay. plutôt sympathique.
Et ta sexualité aujourd'hui, on en a un petit peu, on en a parlé déjà,
oui.
mais...
Alors, on s'est beaucoup étendu sur avant.
C'est important.
Parce qu'aujourd'hui, oui, je savais que ça allait prendre une grosse partie de l'émission, parce qu'aujourd'hui, ben, on est revenu à un mode... je pense que je suis plus... Alors, même si c'est toujours hyper sexualisé, etc., dans ma
tu
tête...
Tu penses au sexe tous les jours ?
Oui.
Plusieurs fois par jour ?
Oui. Oui, je croise un beau mec, oui. Et en même temps, c'est pas satisfait. Et je suis comme dans ma vingtaine, c'est-à-dire qu'il se passe rien. Je pense qu'il se passe, il y a même plus, voilà, il y a rien. Alors il y a quelques rencontres sur via des applications à l'étranger quand je voyage, quelques moments au sauna, des rencontres in real, enfin normal.
Oui.
Non, il n'y en a pas. Et c'est aussi... Je ne vais pas parler de misère sexuelle.
Qu'est-ce que tu pourrais faire pour justement changer ça, si tu le souhaites ?
Ah, Je vais te dire que je n'avais pas pensé à cette question, mais en fait, elle est évidente. Mais ben, il faudrait que je sorte.
Mm-hmm.
Parce qu'aujourd'hui, suite à un burn-out, etc. Enfin bref, je ne travaille plus. J'ai la chance de ne plus travailler à 50 ans. Donc c'est très bien. Il faudrait que je... Voilà, j'ai plus envie de sortir non plus. Non pas que je suis vieux, etc. Enfin, je suis pas forcément vieux, mais je... Voilà, je sais ce que j'ai envie de faire. Je suis un couche-tôt, je suis un lève-tôt. Parfois, je me couche tard. Parfois, je me lève tard. Parfois, je me picole. Mais j'ai pas une vie d'A7, mais voilà, je... J'ai trouvé un certain équilibre.
Tu aimes ta solitude ?
Alors attends, solitude. Je suis solitaire. La solitude, non. Voilà, je suis plus dans le fantasme du mec avec qui je pourrais sortir qu'autre
ouais,
chose.
Ouais, j'ai l'impression que ton...
C'est tout dans la tête encore.
Ouais, c'est ça, hein, j'ai l'impression que...
Mais je suis plus aujourd'hui dans une volonté d'avoir un... En fait, non. En fait, je mens. En fait, il y a eu des rencontres via des groupes Facebook de gens surdoués.
Ok.
Et notamment, voilà. Et il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu trois. Le premier, 57 ans, j'en avais 47. Donc ça date d'il y a 3-4 ans. Alors, c'est pas simple avec quelqu'un qui est surdoué, qui est un peu un animal sauvage non domestiqué, enfin qui ne sait pas domestiquer lui-même, etc. Donc mm-hmm. ça part dans tous les sens, etc. Un autre en province, très compliqué dans sa tête, mais qui le sait, avec qui, voilà, moi, passer plus de 36 heures avec lui, c'était juste pas possible. Et puis récemment, il y a eu, je suis descendu dans le sud, rencontrer quelqu'un avec qui j'ai pas cherché à provoquer les choses, même s'il y avait des regards, même il savait que j'étais intéressé, enfin ça faisait 4 ans qu'on se tournait autour, on va dire. Et puis il y a eu rapidement des appels quotidiens, des SMS toutes les heures, enfin
donc vous avez commencé à créer une...
Ouais, il y avait un truc bien très, qui me faisait retoucher à ce que j'avais vécu avec Jean-Louis mm-hmm. pendant 3 ans et demi. Mais il n'y a pas eu de sexe. Hein.
C'est fou, hein, parce que tu peux passer...
Il y a eu une nuit enlacée.
C'est beau.
C'était très, très tendu.
J'imagine. Non, mais tu peux passer des moments comme ça avec des hommes et le désir est là, mais ça va, il ne va rien se passer. Et par contre, tu peux aller au sauna et bam, finir à 3-4.
Oui, oui.
Bah, c'est quand même cette dualité. Non, oui, est assez...
oui, enfin, cette dualité, là, c'est parce que quand j'en ai plein les couilles...
Fausse idée.
Et que j'ai besoin. Voilà.
Oui, je comprends, mais c'est quand même.
Mais c'est pas satisfaisant au niveau de l'intimité.
J'ai pas dit que ça l'était, mais je trouve que c'est intéressant ce grand écart que tu es capable de faire.
Oui. Ouais. On va dire que je suis souple.
J'aime beaucoup.
Et au bout de 2 semaines, il m'a fait comprendre, enfin, m'a appelé, ça a été assez brutal, même si je m'y attendais. Enfin, j'avais dit, bon, ben voilà, moi aussi, je me pose des questions. On va explorer le temps qu'on va explorer. Et peut-être que la distance va faire qu'un jour, on va se quitter. Et c'est arrivé au bout de 2 semaines, il m'a dit, ben, je préfère pas que tu reviennes.
C'est rapide, hein ?
Parce que je vais m'attacher encore un peu plus. Et je veux pas.
Et lui, il peut pas venir à Paris ?
Il viendra pas.
Et tu peux pas descendre
de... Ben si, je peux descendre, je suis très libre, puisque je travaille pas.
Et alors ?
Ben ça s'est pas fait. Cul comme un échec et comme une gifle et comme...
Comme un chagrin d'amour ?
Oui, même si on n'en était pas à ce stade. C'est que j'avais commencé à regoûter à quelque chose que j'ai pas goûté depuis 1996, donc 23 ans.
Ouais.
Et des promesses, enfin je commençais à goûter à tout ça, même s'il n'y avait pas de contact, enfin il y a eu un contact 48 heures, puis au quotidien, à distance. Et là, ça a été dur, très dur pour moi. Dernière chose, mon actualité, le drame un peu, parce qu'en fait, il y a eu quand même des histoires en 2006-2007, avec un mec pendant 9 mois, avec qui il y a vraiment eu du sexe, ou 15 jours après nous être séparés, qui n'avait pas beaucoup de libido. Alors moi, j'allais beaucoup ailleurs. Il a fini par me donner l'autorisation et je n'avais pas attendu son autorisation. Il y en a eu un aux États-Unis qui, lui, était sous tutelle, enfin beaucoup plus jeune que moi, 21 ans, j'en avais 40, qui était sous tutelle, on va dire maniaco-dépressif, enfin bipolaire aujourd'hui, on dit. Et alors lui pour bander, c'était compliqué. On a eu pareil une seule relation sexuelle. En fait, c'est même pas à partir d'un certain âge. Toutes les relations que j'aurais pu avoir les 10-15 dernières années étaient avec quand même avec des hommes avec des pannes sexuelles.
C'est ce que j'allais te dire, c'est
assez terrifiant. Enfin, moi qui me satisfont pas. Et ça aussi, ça rajoute à la frustration. Parce que moi,
oui.
Je suis toujours au rendez-vous. Oui, mais c'est vrai qu'il
y a un attachement qui peut se créer émotionnel. Et par contre, à côté de ça, physiquement, ça ne fonctionne pas. Alors quand tu as ces expériences dans les saunas et autres, là, il n'y a pas d'attachement. Tu ne connais même pas les prénoms pour faire pour grossir le trait.
On sait pourquoi on vient.
Mais par contre, sexuellement, bam, ça marche.
Pas toujours, mais oui.
Oui, enfin, tu vois, je fais le...
Oui, oui. Bah,
okay.
Si ce n'est pas dans cette cabine, ce sera dans la suivante, on va dire.
Oui, voilà.
Même si ce n'est pas aussi facile que ça.
Donc aujourd'hui...
Et en l'occurrence, là, sur la dernière relation qui n'a pas pu germer, il y a eu un brin de germe, il y avait une vraie érection et donc super, non seulement il y a des sentiments, il y a de l'érection, il y a de la vigueur,
sentiments, érection, voilà.
Donc aujourd'hui c'est un peu c'est la jachère, sentimental, c'est surtout sentimental à la limite qui me dérange plus,
qui est le plus difficile,
si je suis très bien seul avec moi et mon chat, avec moi-même et mon chat et mon bel appartement japonais parce que je suis aussi décorateur, et le futur.
Et ouais, c'est ce que j'allais te dire, et le futur.
Le futur, je n'en vois pas.
Tu n'en vois pas, comment ça ?
Alors, c'est pas que je suis pessimiste, hein, mais en fait, moi, j'accueille les choses comme elles viennent. Alors, peut-être qu'il se passera quelque chose, peut-être qu'il se passera rien. Il y a 10 ans, je disais, je serais peut-être le seul... Je vais être vulgaire, enfin trivial, le seul PD de 60 ans qui sera avec un mec en couple et j'aurai trouvé l'amour à 60 ans, enfin voilà.
Qui sait ?
Peut-être pas, peut-être que je me surprendrai moi-même.
Tu t'es surpris quand même ?
Oui, en fait c'est ça, je suis plutôt à me laisser surprendre. Un rapport au manque affectif qui est pas évident non plus, donc je me surveille. J'ai une dépendance sexuelle moindre qu'avant, puis je me satisfais seul. Voilà, le futur, il est comme le présent, je laisse venir les choses.
Moi, j'ai deux questions. La première, c'est quel est ton rapport au temps qui passe, d'un point de vue vraiment physique ?
Alors, ça va pas trop mal
pour moi.
Parce
que tu fais pas du tout tes 50 ans.
Non, ça va pas. Alors moi, je les sens bien, mais vous les voyez
nous,
pas.
Nous, on ne les voit pas. Voilà. Encore moins les auditeurs.
Alors, dans la communauté gay... Passé 40 ans, t'es mort quand même. Enfin, t'es un daddy.
Mais il n'y a pas un retour du daddy, non ?
Si.
C'est un peu sexy, un daddy.
Si. Oui, ça peut être sexy, mais t'es plus regardé de la même façon, ça c'est très clair. Sauf par des amateurs.
Oui, les petits jeunes, les novices.
Chaser.
D'accord, ils ne connaissent pas.
Hunter.
Mais toi, avec toi-même, ça va ?
Oui. J'avais beaucoup grossi aux États-Unis, mais c'était aussi le passage de la quarantaine. Grâce aux jeunes thérapeutiques, j'ai repris ma
taille. Parce que t'es tout mince, ouais.
Jeune fille, d'il y a fin de trentaine. Bon, après, les muscles tombent, je veux dire.
Quand passe, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Mais bon, ça se voit pas trop, j'ai pas trop de cernes.
Non, t'es frais, Sylvain, t'es frais.
Il paraît, voilà. Moi, je le vois, mais pas toi, donc tant mieux, à la limite. Je sais que je plais, même à des femmes encore. De temps en temps, à l'occasion, ça me fait toujours plaisir. Il y a une nana qui me drague. Femme.
Non, oui, parce que t'es souriante, t'es doux, etc. Donc je pense que oui, ça peut plaire. Et donc ma deuxième question, c'était ça. C'est le titre d'un livre d'une psychologue qui s'appelle Jeanne Siofachin. Titre, c'est Trop intelligent pour être heureux.
Est-ce que ça te parle ? Oui, en fait, c'est un des premiers livres qu'on m'a conseillé de lire avant de me faire dépister.
J'imagine.
Donc ça m'a révélé à moi-même. Quand je regarde autour de moi, oui, tout à fait. C'est compliqué. Enfin, trop intelligent, c'est trop pensé.
Ça s'arrête jamais.
Moi, je suis partie des surdoués qui ne sont pas forcément des super computers, mais plus. Moi, je suis un hypersensible. Il y a aussi les hypersensibles qui ne sont pas des surdoués. Enfin, bref. Oui. Mais, je suis plutôt dans l'hypersensibilité. C'est un pas être un frein au bonheur. Alors moi, je vais quand même te répondre par une contre-affirmation. C'est ma psychanalyste qui me disait ça, qui me disait qui se pose la question du bonheur. Je veux dire, quelqu'un qui est heureux ne se pose pas la question du bonheur.
C'est vrai. C'est pas faux.
Donc, je préfère ne même pas en parler du bonheur.
Est-ce que tu penses, là, je fais un pensif, hein, mais que la sexualité, c'est ton exutoire dans tout cette réflexion, cette intellectualisation de plein de choses, cette hypersensibilité?
Je suis encore dans mes schémas. Moi, je l'assume, hein, puis je serai encore dans mes mécanismes d'enfance, d'hypersexualisation. Mm-hmm. Oui, il y a ce côté-là de... Qu'est-ce que tu as dit?
Exutoire.
D'exutoire, ouais. Ouais, je ne suis pas encore en paix par rapport à ça.
Qu'est-ce que tu pourrais dire au Sylvain, au jeune garçon qui allait voir ses parents à 6 ans, qui à l'apéro, qui leur a dit...
Ah, qu'est-ce que je lui dirais à lui
Si tu avais été un adulte à cette table-là, et je ne sais pas, avec une machine...
C'est facile, hein, de...
Ouais,
de
je donner. Sais.
Mais je lui dirais... Qu'est-ce que je lui dirais? J'accueillerais ce qu'il... je dirais, ah ouais, c'est intéressant. Je pense que je le ferais parler par rapport à son expérience, sans jugement.
Et le mot de la fin, ce sera quoi, Sylvain?
Je le sais, le mot de la fin.
Ah, tu l'as bossé?
Je l'ai bossé. On vit... Enfin, pour moi, la prochaine révolution, enfin, si on survit à la catastrophe écologique, politique, financière, etc., c'est la trans... tout ce qui est... gender fluide, donc fluide au niveau du genre. C'est aussi traité dans certains livres de science-fiction. Peut-être que j'aimerais naître aujourd'hui ou naître plus tard, ou renaître plus tard éventuellement, dans cette société qui se profile où il y a une certaine fluidité dans le genre, dans la sexualité.
C'est plus aussi binaire, en tout cas.
C'est pas binaire, ou ça peut l'être temporairement, enfin, et on peut passer de l'un à l'autre. Et moi, je trouve que c'est une chance pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont pas trop névrosés, pas trop, disons, façonnés par l'image sociale qui leur est transmise. De pouvoir faire ce choix. Mais je trouve ça formidable ce qu'est en train de... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la question du mariage homosexuel est complètement dépassée. Aujourd'hui, vraiment la prochaine échéance, c'est la fluidité des genres et du sexe. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire comme mot de la fin? C'est que dans cette perspective-là, on a la chance d'être dans une époque formidable. Alors peut-être pas pour ceux qui sont nés avant, mais ceux qui vont venir, qui ont peut-être la chance de vivre sur Terre.
Ok, merci.
Merci à toi.
Merci à Sylvain pour sa confiance. Infiniment. Ça a été une très jolie rencontre et je le remercie d'avoir livré toute son histoire ainsi. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre soutien quasi quotidienne maintenant. N'hésitez pas à venir sur la page du compte Instagram On The Verge Podcast et n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux de cet épisode, des autres et d'autres choses encore. J'essaie de répondre à chaque fois. Merci encore et à très bientôt.